Bonjour madame, bonjour monsieur. Ravi d'être en votre compagnie pour cette nouvelle session de Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique. Ce programme vous est présenté par Nanit Talani. Au Mali, on estime qu'environ 2450 femmes ont développé un cancer du sein en 2020. Selon Médecins Sans Frontières, c'est le premier cancer chez les Maliennes aujourd'hui. À l'occasion d'Octobre Rose, un mois dédié dans de nombreux pays à la prévention du cancer du sein, MSF et les autorités sanitaires maliennes ont organisé une campagne de dépistage du cancer du sein visant à accompagner les femmes vers les structures de santé pour se faire dépister et bénéficier d'une éventuelle prise en charge. Qui est concerné par le cancer du sein? Comment le prévenir? Est-ce une fatalité?
Le cancer du sein est plus grave de nos jours, en rajoutant que ça dépend du stade aussi. Les meilleures chances sont que le cancer du sein est diagnostiqué précocement, donc à ce stade du début.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Marc Untenikoudjati, coordinateur médical MSF au Mali. Ensuite, vous suivrez Carnet de santé avec Linor Moudou dans la deuxième partie de ce programme.
Santé votre avenir, l'invité de la semaine.
À présent, nous vous invitons à écouter l'interview que nous a accordée le docteur Marc Untenikoudjati. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté d'être notre invité pour cette émission de Votre Santé, Votre Avenir de VOA Afrique. Nous parlons du cancer du sein au Mali, notamment la campagne que MSF a organisé ensemble avec les autorités maliennes pour le dépistage du cancer du sein chez les femmes au Mali. Docteur, quelle est la prévalence du cancer du sein au Mali actuellement?
Ok, si on se réfère aux données de l'Agence internationale de recherche contre le cancer, qu'on a appelé GloboCan, sa prévalence à 5 ans pour tous les âges. Ou par exemple le cancer du sein au Mali en 2020, c'est-à-dire qu'on a notifié 2448 cas de cancer du sein selon la même source.
Il y a des signes qui peuvent alerter une femme sur la survenue du cancer du sein?
Oui, bien heureusement, ces signes sont des signes d'alerte qui ne sont pas forcément imputable au cancer, mais qui oriente sur une conduite à tenir. Donc, il s'agit de l'apparition d'une masse au niveau du sein. Donc, cette boule peut être mobile, elle peut être douloureuse, donc non. En tout cas, palpable. Elle peut également être visible ou pas visible. Un autre signe qui peut alerter, c'est un peu la modification de l'aspect du sein. On verra donc l'apparition de type de cette là au niveau de la surface. Le cours de la peau, une tendance à la rougeur toujours au niveau de la peau, et quelque chose qui, on le sait mieux aussi sur le fait que la peau prenne un aspect donc odorant. On peut avoir aussi au niveau des aisselles une masse au niveau donc des aisselles touchées, ou ça peut être aussi à l'examen donc à la vision de l'aisselle, on peut avoir une masse. On a aussi l'écoulement dans le milieu. On a une personne qui avait un musculaire et qui commence à remarquer des petits écoulements, surtout quand ces écoulements contiennent un peu de sang, donc des petits liquides cachés de sang. Donc, c'est essentiellement ce symptôme qui dessine, qui guérit.
Qui est susceptible de développer un cancer du sein? Est-ce qu'il y a un type de femme qui est plus exposée au cancer du sein ou ça concerne toutes les femmes?
Toutes les femmes, tout le monde est susceptible de développer des cancers du sein. Cependant, il y a aussi le facteur âge qui peut rentrer en ligne de compte. Ça veut dire qu'on a les données de la littérature aujourd'hui, les données scientifiques montrent que c'est les femmes entre 50 et 70 ans qui représentent un peu la moitié des femmes qui sont effectivement dans des détecte le cancer. Sinon, dès la menstruation, chez les femmes, on peut détecter le.
Docteur, qu'est-ce qui est à l'origine de ce cancer? Quelles en sont les causes?
Pour le cas du cancer, on dirait, on parlait plutôt de facteurs de risque. Et pour cette maladie, il faut retenir qu'elle est multifactorielle. Même s'il y a des incertitudes quant à l'application et au poids de certains facteurs. Donc le premier facteur, c'est le sexe, puisque la majeure partie des cas de cancer sont observés chez les femmes. Le deuxième groupe de facteurs, c'est les antécédents personnels, donc pour une personne qui a fait un cancer de l'ovaire, un cancer donc de l'endomètre. Donc ces cancers-là, chez une personne, peuvent être considérés comme un poids dans l'apparition d'un cancer donc, du sein. Il y a également les prédispositions génétiques. On a certains traitements hormonaux qui sont essentiellement à base d'estrogène. Le mode de vie aujourd'hui, la sédentarité, l'inactivité, la consommation d'alcool, la consommation aussi de tabac et surtout aussi le surpoids. Ce sont des facteurs-là, en tout cas jusque-là, qui concourent à être à l'origine du cancer du sein.
Nous avons un auditeur qui nous écrit depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il veut savoir en quoi consiste le dépistage.
Le dépistage, c'est une méthode qui va nous permettre d'identifier des personnes présentant donc une maladie. Et pour ce cas du cancer du sein, on a l'avantage que ce soit... ça passe tout d'abord par la palpation. La palpation, donc l'examen, donc, puis après la palpation donc, du sein, qui peut révéler une anomalie. En se disant que toute anomalie n'est pas forcément un cancer. Par contre, s'il y a une anomalie, la patiente donc, va être dirigée vers un centre où on peut faire de la mammographie.
Donc, c'est pour montrer que le dépistage est une étape importante ou bien un élément important dans la lutte contre le cancer du sein?
Oui, absolument. Se faire dépister, donc, c'est de diagnostiquer au stade 1 le plus précoce. Cela permettrait d'avoir des chances, d'augmenter, d'avoir de meilleures chances de réussir.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
À quel âge une femme devrait commencer la palpation mammaire?
Toute femme qui aurait vu donc cette première menstruation, elle a bienvenue pour ce dépistage particulièrement. Donc l'autopalpation se fera donc par la patiente et dans le cas contraire, si elle se présente dans un centre où le dépistage se fait, elle pourra donc bénéficier de l'accompagnement des soignants pour identifier s'il y a une anomalie ou pas.
Pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup de centres médicaux, on affirme que c'est plutôt vers l'âge de 45-50 ans qu'il faut commencer à s'inquiéter concernant le cancer du sein?
Oui, c'est comme je dis, c'est vrai que c'est là où on a le plus de cas. Par contre, on a également des cas à l'âge déjà de 11 ans. Donc, c'est pour dire qu'au fur et à mesure donc, qu'on prendra de l'âge, ce serait donc de garder ce dépistage-là comme une habitude. Au moins le faire une fois par an dans les centres de santé. Et aussi, les femmes sont elles-mêmes sensibilisées à se former à l'autopalpation aussi des femmes.
Alphonse Boaki, notre auditeur, a une autre question. Il veut savoir si le cancer du sein est traitable.
C'est la chance. Le cancer du sein est traitable de nos jours. En rajoutant que ça dépend du stade aussi. Les meilleures chances sont pour les cancers du sein diagnostiqués précocement, donc à ce stade donc du début. Par contre, à des stades très avancés, l'issue donc du traitement souvent n'est pas souvent favorable. Mais à un stade très précoce, les chances de réussite du traitement sont nettement meilleures.
Est-ce qu'il y a aussi un moyen de le prévenir?
Oui, bien sûr, on peut prévenir le cancer. Si nous avions discuté des facteurs de risque, donc en jouant sur ces facteurs de risque ou en intervenant donc sur ces facteurs de risque, bien évidemment, on réduit le risque. Donc, il faut avoir régulièrement une activité physique pour éviter l'obésité. Et enfin, la détection donc précoce en passant par le dépistage.
Vous vous êtes associé aux autorités sanitaires maliennes pour lancer cette campagne de dépistage contre le cancer du sein au Mali. Peut-on savoir quelles sont les actions que vous menez?
Nous sommes en partenariat avec le ministère, avec aussi les associations. Nous avons également l'Amicale des femmes d'Orange du Mali qui initie déjà des campagnes de dépistage dans des centres de Bamako. L'objectif de nous, c'est de mutualiser nos moyens pour l'étendre, de telle sorte que le message puisse toucher les plus réticents et celles qui n'ont pas souvent la chance d'en entendre parler. En plus de cela, les actions singulières, donc les MSF, seront appuyées donc, en entrant ce centre de santé, ce grand mois de dépistage, appuyer aussi les soignants en formation. Et surtout pour les patients pour lesquels une anomalie, par exemple, du sein sera identifiée, il s'agira de leur faciliter la réalisation de la mammographie au cours donc, de cette campagne.
Vous avez souligné un point très important, convaincre les réticentes. Qu'est-ce qui fait que certaines femmes ou beaucoup de femmes sont encore réticentes à l'idée de se faire dépister un cancer de sein?
De mon point de vue, j'ai beaucoup pensé que c'est un peu de la fatalité, donc la peur de connaître le nombre de maladies. Donc c'est cette tendance qu'on cherche justement à inverser, parce que c'est une maladie qui est curable, c'est une maladie qui peut se détecter à un stade de début, ce qui donne donc des chances, de très bonnes chances de réussir du traitement.
Ok. À ce stade-là, quelle doit être l'implication de la communauté?
Oui, moi je crois que tout le monde est appelé à mettre un peu la main dans la pâte, que ce soit les pères, les mères, les autorités, que ce soit aussi les associations, les artistes, les professionnels de santé. Nous avons cette chance-là d'avoir une grande chanteuse Bintou Soubounou ici au Mali, qui est également déterminée. Parce que le message à tout le monde, c'est pas une fatalité et c'est une maladie traite avec de très bonnes chances de guérison si il est diagnostiqué.
C'est pas une fatalité. Alphonse Mbouaki aimerait savoir si à un certain moment le cancer peut devenir fatal et incurable.
Oui, à un moment donné, à un stade vraiment très avancé. Par contre, le défi aussi pour ça, c'est un peu la mise en dessous des services capable de procurer des soins palliatifs et d'accompagner ces patients-là en fin de vie pour garder leur honneur et leur vie.
Docteur, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour éviter à ce que le cancer du sein devienne une fatalité pour les femmes?
Oui, il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire. C'est informer, de sensibiliser tout le monde autour de nous, de dépistage.
Mais est-ce que son traitement est à la portée de toutes les patientes?
Non, pas du tout. Je prends le cas particulier du Mali, où les traitements donc sont gratuits. Le traitement est gratuit, par exemple, pour ce qui concerne le traitement médicamenteux, quand les stocks sont disponibles au niveau des sortes du ministère de la Santé, puisque c'est censé être gratuit, le traitement. Par contre, pour ce qui est comme chirurgie, pour ce qui est, par exemple, comme radiothérapie, et tout ce qu'il y a comme bilan avant le traitement, pendant le traitement, c'est là où MSF, en partenariat avec le ministère de la Santé, rend ce traitement gratuit donc pour les femmes qui sont dépistées. Nous sommes en partenariat avec le ministère de la Santé depuis fin 2018. Et ce programme se poursuit même en dehors du mois d'octobre.
Un de nos auditeurs, Laska Sek, se dit que la lutte contre le cancer du sein ne devrait pas se limiter seulement au mois d'octobre.
Oui, je suis d'avis avec lui. Cette fois-ci, je crois que le mois d'octobre, c'est mondial. C'est un mois, profite un peu de ce mois et pour sensibiliser un peu partout. Sur l'intérêt donc, du dépistage.
Merci beaucoup, docteur Koudiati, d'avoir répondu aux questions de VOA Afrique. Vous venez de suivre l'interview que nous avions eue avec le docteur Marc Unteni Koudiati, coordinateur médical Médecins sans frontières au Mali. À présent, nous vous invitons de suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, l'exode massif des agents de santé, un défi majeur pour l'Afrique. Comment résoudre le problème de la fuite des cerveaux en médecine sur le continent? Un expert nous en dit plus. Ensuite, une pénurie de seringues menace les efforts de vaccination en Afrique contre le Covid-19. De plus, la conférence COP26 sur le climat est en cours à Glasgow. Notre entretien avec Bill Gates sur les défis du réchauffement climatique. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'Organisation mondiale de la santé recommande un médecin pour 1000 habitants, mais l'Afrique compte environ un médecin pour 5000 habitants. La fuite des cerveaux est l'une des raisons de la pénurie d'agents de santé sur le continent, selon les observateurs. Des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail incitent certains travailleurs africains du domaine médical à migrer vers des pays plus développés. D'autres étudient à l'étranger et ne retournent pas dans leur pays d'origine après avoir obtenu leur diplôme. Les pénuries d'agents de santé ont un impact sur l'accès aux soins, la qualité des soins, la productivité des populations et les taux de survie aux maladies. Partons tout de suite au Nigeria, où des milliers de médecins quittent le pays chaque année pour de meilleures opportunités à l'étranger, malgré les efforts des autorités sanitaires pour les retenir. C'est un reportage de Gilbert Tamba avec la voix de Thierry Kaoré.
Une scène laissante à l'hôpital national d'Abuja. Couchée, impuissante dans son lit, Imomon Loretta attend d'être prise en charge, mais des médecins résidents nigériens qui assument le plus gros du travail sont absents suite à une grève nationale pour de meilleurs salaires et conditions de travail.
Je suis venue ici à cause de mes collègues. J'ai travaillé dans cet hôpital avant et mon fils aussi travaille ici actuellement. C'est lui qui m'a fait venir ici, mais ils ne peuvent pas tout faire. Les médecins manquent, il n'y a que peu de médecins et ils font ce qu'ils peuvent.
Souvent au Nigeria, les activités dans les hôpitaux publics tournent au ralenti. Il n'y a pas de médecins sur place, donc les patients dans de mauvaises conditions sont référés vers des hôpitaux privés. Cependant, le traitement dans les hôpitaux privés coûte beaucoup plus cher que dans les centres hospitaliers publics. Problème, de nombreux médecins nigériens en poste dans ces hôpitaux sont en train de quitter le pays en grand nombre pour aller chercher du travail dans des pays étrangers comme le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada ou l'Arabie Saoudite, entre autres. Ce médecin est l'un des candidats à l'émigration.
Je n'ai pas besoin de réfléchir deux fois pour cela. Au moment même où je vous parle, si je reçois un appel me demandant de faire mon bagage en 24 heures pour quitter ce pays, mais bien sûr, je sais quoi faire. Je n'ai pas besoin de penser. Peut-être la question de patriotisme à moi, mais vu la situation actuelle, je ne pense pas que le patriotisme doit être pris en compte.
Ici, beaucoup de médecins ont 3 à 4 différents lieux d'emploi pour pouvoir simplement gagner leur vie. Ces médecins évoquent les mauvaises conditions de travail pour justifier leur départ. Mais la dernière vague de départs massifs inquiète les populations tout comme les autorités.
Pourquoi je ne vais pas m'inquiéter? Au Nigeria, nous sommes plus de 200 millions d'habitants et le nombre de médecins est déjà insuffisant. Ici, vous avez un médecin pour 5 à 6 000 patients et vous continuez à diminuer ce nombre de plus en plus. Un temps viendra où vous allez venir dans un hôpital et vous ne trouverez pas un médecin en fonction ou qui travaille.
Selon des statistiques disponibles au Nigeria, sur près de 72 000 médecins inscrits comme membres du Conseil national médical et dentaire, approximativement 35 000 seulement travaillent sur place dans ce pays de plus de 200 millions d'habitants, laissant un déficit important du personnel dans le secteur sanitaire du pays.
Adebosoye Adeyemi est directeur au Centre de santé universelle de l'Institut royal des affaires internationales Chatham House en Angleterre. Il partage son point de vue sur la fuite des cerveaux médicaux en Afrique et ce qui peut être fait.
La fuite des cerveaux dans le domaine médical a un impact significatif sur les systèmes de santé en Afrique, car les cliniciens et les professionnels de la santé que l'on croirait disponibles pour traiter les personnes atteintes de maladies infectieuses, de maladies non transmissibles, sont absents, ce qui constitue une menace pour la santé publique. Les communautés ne reçoivent plus les soins de santé dont elles ont besoin parce que les médecins et les infirmières ne sont pas ceux qui les traitent. La fuite des cerveaux niveau est un grand défi en raison du manque d'investissement. C'est le manque de fonds pour satisfaire les besoins des travailleurs de la santé qui les amène à chercher d'autres moyens de gagner leur vie. Il y a aussi un peu d'aléa moral sur d'autres pays occidentaux qui invitent ces travailleurs de la santé alors qu'ils ont aussi des patients. Ils ont des citoyens qui ont besoin de soins de santé. Et s'ils ont les fonds et que nous vivons dans une économie de marché libre, alors ils peuvent publier des offres d'emploi. Et c'est ensuite aux individus de décider s'ils l'acceptent ou s'ils en font la demande. Il est extrêmement difficile d'imposer des règles et de limiter les restrictions à la circulation des personnes, car tout individu veut gagner sa vie. C'est donc vraiment plus d'argent et plus d'investissements qui sont nécessaires pour attirer et retenir les travailleurs de la santé dans les États africains, et il faut donc peut-être faire davantage sur les trésoreries et les budgets consacrés aux soins de santé. L'une des principales causes est le financement. Vraiment, vous pouvez vous imaginer en tant que médecin ou en tant qu'infirmière ou en tant que commission dans un système de santé africain, si vous n'êtes pas payé ou si vous pensez que vous pouvez améliorer vos revenus ailleurs, la nature humaine fondamentale dicterait que vous vous déplaciez pour vous assurer de gagner votre vie. Et le manque d'investissement dans certains de ces systèmes de santé en Afrique signifie que les médecins et les infirmières ne reçoivent pas les salaires qu'ils méritent. Donc, ils iront vers d'autres opportunités d'emploi où ils peuvent obtenir un meilleur revenu et où ils peuvent également utiliser leurs compétences. Parce que si vous êtes médecin ou infirmier et que vous n'exercez pas au fil du temps, vous perdrez cette compétence pour laquelle vous aviez initialement été formé. En fait, il faut penser à l'accès aux soins de santé pour commencer à penser au système de soins de santé nationaux qui protège les autres pays des menaces pour la santé publique. La menace de la pandémie, vous savez, est un terme qui désigne la sécurité sanitaire mondiale. Donc, plutôt que de la considérer comme une protection du monde contre les maladies africaines, etc., l'assurance maladie, c'est la couverture sanitaire universelle. Il faut une approche plus persuasive et plus visionnaire des soins de santé en Afrique sur ce que cela signifie d'avoir une couverture sanitaire universelle en Afrique. Comment les dirigeants politiques voir la prestation des soins de santé à leurs citoyens. Et donc, nous avons ce changement avec les dirigeants tout haut, puis nous parlons au ministre des Finances, au ministre du Trésor, pour qu'il le fasse, fournisse ses financements de bonnes infrastructures fiscales. Je pense que nous rencontrerons toujours ce problème où l'argent n'est pas là pour payer les travailleurs de la santé, afin qu'ils fournissent de meilleurs soins.
Selon l'OMS, l'Afrique est touchée par plus de 24% des maladies dans le monde, mais ne dispose que de 3% de l'ensemble des professionnels de santé, dû en partie à l'exode des médecins africains, comme nous l'avons mentionné. Que pensez-vous de la fuite des cerveaux africains dans le domaine médical et comment y remédier? Voici vos réactions sur Facebook. Albert Mouchizi écrit: nous pensons que leur mauvaise prise en charge par leurs pays respectifs est à la base de l'exode. La mauvaise rémunération, le manque d'équipement, mais aussi et surtout l'insécurité pour le cas de mon pays, la République démocratique du Congo. Mohamed Moussa Samba Khan répond: le problème de base est que l'on ne permet pas aux enfants issus de familles pauvres de faire cette branche d'études qu'est la médecine. Vous devez avoir un parrain médecin ou connaître des gens au sein de la société. Ensuite, après les études, les médecins formés ne sont pas mis dans de bonnes conditions de travail. Pire, ils sont plus exposés aux maladies qu'ils traitent à cause du manque de moyens adéquats. Serge Kassi répond: de toute façon, ce n'est pas leur problème car ils se soignent en Occident. L'OMS prévient qu'une pénurie de seringues menace d'interrompre les efforts visant à vacciner des millions d'Africains contre le Covid-19, une maladie qui a infecté plus de 8,4 millions de personnes sur le continent, tuant 217 000 personnes. Davantage dans ce reportage de Lisa Schlein, relaté par Ginny Kapumbu-Villa.
Les expéditions de vaccins vers le continent augmentent et devraient augmenter l'année prochaine. Bien que cela soit encourageant, le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique affirme qu'une pénurie de seringues pourrait paralyser le progrès.
Je veux juste dire que les seringues sont comme un tout petit élément dans le tableau d'ensemble du déploiement des vaccins. Mais nous savons très bien que si vous n'avez pas de seringues, vous ne pouvez pas mettre des injections dans les bras des gens. C'est donc un sujet très important. Il y a une menace imminente que les fournitures de seringues se tarissent.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance expédie des seringues pour le déploiement mondial des vaccins dans le cadre du dispositif COVAX. Moeti dit que l'UNICEF prédit une pénurie mondiale d'environ 2 milliards de seringues nécessaires pour les vaccins anti-Covid-19 et les vaccinations de routine.
Déjà, certains pays africains comme le Kenya, le Rwanda et l'Afrique du Sud ont connu des retards dans la réception des vaccins et à moins que des mesures drastiques ne soient prises pour stimuler la production de seringues, l'Afrique sera confrontée à une crise.
Moeti note que la production locale de médicaments et autres thérapies contre le Covid-19 aiderait à accélérer et à remédier aux inégalités, ainsi qu'à l'accès aux produits clés dans les pays les plus pauvres. Elle dit qu'il serait extrêmement souhaitable que des accords de partage de brevets similaires soient également étendus à la production de vaccins.
Plusieurs dirigeants du monde sont réunis à Glasgow, en Écosse, cette semaine pour un sommet crucial sur le changement climatique, la COP26. Les experts avertissent que le réchauffement de la planète pourrait atteindre des niveaux catastrophiques si davantage n'est pas fait pour résoudre des problèmes tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon les Nations Unies, environ 4 milliards de personnes ont été touchées par des événements liés au changement climatique au cours de la dernière décennie, notamment des inondations mortelles, des incendies de forêt, la sécheresse et la malnutrition. Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates, nous a rejoint depuis le sommet sur le climat. Selon lui, trouver des solutions contre le changement climatique est crucial pour l'humanité.
Le changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels l'humanité n'ait jamais été confrontée car, d'année en année, en raison de ces émissions de carbone, le climat deviendra plus chaud et cela signifie, en particulier, que n'importe où près de l'équateur, la possibilité de faire de l'agriculture en plein air ou des travaux de construction en plein air deviendra impossible. Et donc, ça va vraiment déstabiliser les gens qui vivent dans ces zones tropicales. Nous devons faire deux choses. Nous devons arrêter ces émissions. En attendant, nous devons aider les pays à s'adapter à ces conditions météorologiques changeantes. Par exemple, vous savez, en leur donnant de meilleures semences, ils peuvent faire face à l'augmentation de la température. Vous savez, j'étais à la réunion de Paris il y a 6 ans. Celle-ci, vous savez, est la plus grande et la plus large. Il y a donc une certaine attention, mais nous devons encore faire beaucoup plus. Eh bien, la grande annonce de notre part est la suivante. Nous participons à l'adaptation de la politique de l'innovation pour le changement climatique et une grande partie de cela est d'aider les petits agriculteurs. Un certain nombre de pays annoncent une augmentation des ressources dont le président Joe Biden qui fera des annonces importantes. Nous annonçons 315 millions de dollars au cours des 3 prochaines années pour le consortium de semences qui fabrique les semences pour tous les différents pays. La grande priorité pour cet argent sera des semences qui peuvent être encore productives malgré le défi du changement climatique. Nous nous attendons à ce que 1 milliard de dollars supplémentaires, y compris notre argent, soit consacré à cet effort. Et cela a le potentiel de bénéficier littéralement à des centaines de milliards de ces petits agriculteurs.
Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @lenormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À très bientôt.
Voici au terme de Votre Santé, Votre Avenir, qui était structuré autour du cancer du sein au Mali. Notre invité, le docteur Marc Unteni Kouldiati, a expliqué que le cancer du sein n'est pas une fatalité et qu'il est curable. Il a aussi mentionné quelques moyens de le prévenir. Le docteur Marc Unteni Kouldiati est coordinateur médical Médecins sans frontières au Mali. Dans la deuxième partie de ce programme, nous vous avions proposé Carnet de santé avec Lenor Moudou. Cette émission santé a été réalisée grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.